Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous sommes arrivés en ce grand dimanche de la Pentecôte, dimanche si important que l'Église a voulu poursuivre ce temps longtemps durant le cours de l'année liturgique. Il y a ensuite 24 dimanches qui suivent la Pentecôte et parfois plus selon la date de Pâques. C'est dire si ce travail du Saint-Esprit est le travail de toute une vie chrétienne. J'ai écrit mon sermon hier, préférant lire ce que j'ai écrit plutôt que de dire sans avoir écrit, car je ne suis pas en très bonne forme. Donc j'ai préféré écrire hier. Comme ça, je ne dévierai pas de ce que j'ai écrit, j'espère. Vous verrez bien. Le séminaire français de Rome, qui était tenu à l'époque où l'abbé Lefebvre, Marcel Lefebvre, était séminariste, tenu par le père Lefloc, un prêtre breton. Monseigneur Lefebvre, l'abbé Lefebvre étant ordonné en 29, il y a presque 100 ans, ce séminaire avait pour devise « Pietas cum doctrina », Doctrina cum pietate. La piété avec la doctrine et la doctrine avec la piété. Le jeune prêtre, c'est très important d'allier la piété avec la doctrine. Car piété sans doctrine, c'est du sentimental, du sentimentalisme. Et on voit bien où cela mène les âmes encore de nos jours. Il n'y a plus de fondement dans la vérité révélée et interprétée adéquatement par la Sainte Église, avec ses pères de l'Église, les docteurs, les papes. Donc le jeune prêtre, qui devint évêque en 47, l'abbé Lefebvre, Monseigneur Lefebvre, ajouta à cette devise de son séminaire, le séminaire français de Rome, il ajouta la devise tirée de l'apôtre Saint Jean, « Credidimus caritati », « Nous avons cru à la charité ». En effet, Saint Jean, c'est l'apôtre de la charité, celle du cœur sacré de Jésus. Mais de quelle charité s'agit-il? C'est la grande question. D'une charité philanthropique, mièvre, qui voit tout en rose, qui gomme avec les outils informatiques les nuages, le brouillard, les nuages, les orages. On fait ça aussi avec l'intelligence artificielle. Dans le dernier Kyrie et le livre dont je vous ai parlé de Mgr Williamson, le quatrième volume, il y a en 2018 deux articles sur l'intelligence artificielle. Demain paraît au Vatican l'encyclique de Léon XIV sur l'intelligence artificielle. On verra. On verra ce que dit le pape sur cette dévastation de l'intelligence réelle. Donc, cette charité philanthropique où tout est gommé, en clair, un beau ciel bleu avec une température très tempérée, mais ce n'est pas la vraie charité. La vraie charité est armée d'un glaive. Et c'est saint Paul qui nous donne ce qu'il faut comprendre par cette charité. C'est dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 17, je cite. « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa vertu toute puissante. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. » Afin de pouvoir résister aux embûches du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les mauvais esprits répandus dans l'air. C'est pourquoi prenez l'armure de Dieu, afin de résister aux jours mauvais, et après avoir tout surmonté, restez debout. Soyez donc fermes, les reins saints de la vérité, revêtu de la cuirasse de justice, les sandales aux pieds, prêts à annoncer l'évangile de paix. Et surtout, prenez le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre les flèches enflammées du malin. Prenez enfin le casque du salut, le glaive de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Eh bien, chers frères, en résumé de ces quelques versets de saint Paul, l'apôtre des nations qui a tant évangéliser tout bassin méditerranéen nous donne un programme, la paix de Jésus-Christ, mais par le glaive de l'Esprit-Saint, C'est l'enseignement du Saint-Esprit par la bouche de Saint Paul. En cette fête de Pentecôte, c'est important d'avoir désigné des notions claires sur l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Jésus-Christ, qui n'est pas un esprit flasque, mais un esprit réel, un esprit de vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ est la vérité. E-S-T. Il a la vérité, mais il est plus que avoir la vérité. Il est la vérité. Je suis la voie, la vérité et la vie. Je suis. Et il envoie, a-t-il dit aux apôtres, je vous enverrai l'esprit de vérité qui va vous réapprendre toutes choses. Non pas des choses nouvelles, mais vous réapprendre. Comme un élève qui n'a pas compris la leçon et il revient à l'école pour réapprendre. Eh bien, l'Esprit Saint va faire cela avec les apôtres. La différence est de taille entre avant la Pentecôte et avec la Pentecôte. Ce sont les mêmes apôtres. Pierre, le jeudi saint, renie Jésus. Il y a très peu de personnes dans cette petite cour intérieure du palais des grands prêtres. Il renie Jésus trois fois. Non, je ne le connais pas. La Pentecôte, 50 jours plus tard, 53, 54 jours plus tard, que fait-il ? Il parle devant 3000 personnes. Il est converti. C'est l'Esprit Saint qui agit par lui, en lui. C'est toujours la parole de Pierre, mais il est revêtu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a parlé par la bouche des prophètes, car toute la Sainte Écriture est l'œuvre du Saint-Esprit. Écoutez ce que disait en 1915 les évêques du Brésil, qui rappellent les devoirs des pasteurs, des prêtres, par rapport à leurs fidèles. Je cite ces évêques du Brésil. À chacun de nous, il a été dit, « Voici que je te constitue aujourd'hui sur les peuples, pour arracher et détruire, édifier et planter. » Et il cite ces évêques Jérémie, le prophète Jérémie. Ils poursuivent, « Il ne suffit pas de connaître et de réprouver le mal. Il est nécessaire de le combattre, de l'arracher, de le détruire, de défricher, semer, planter et occuper par la culture des œuvres saintes le terrain envahi par les vices et les crimes. » Et il cite l'apôtre saint Paul aux Corinthiens, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Et il conclut, ces évêques du Brésil, il y a un siècle, un peu plus, « Nous sommes responsables des péchés que nous n'empêchons pas quand nous devons le faire. » Pour illustrer cette prédication de ces évêques courageux au Brésil, il y a un siècle, et par la suite, il y eut l'ensemble de Castromayer, qui fut un évêque éminent du Brésil, à Campos. Il est mort un mois après Mgr Lefebvre, le 25 avril 1991. Donc écoutons cette page, ces pages, il y a un petit peu long, mais c'est la Pentecôte, donc soyons attentifs à des auteurs catholiques. Il faut nous en pénétrer. Un auteur éminent du 19e siècle, Ernest Hélo, qui dit ceci. Il faudrait s'entendre. Plus une parole est belle, plus elle est dangereuse. Il est impossible de dire quelle est l'importance du langage. Les mots sont du pain ou du poison. Et c'est un des caractères de notre époque que la confusion universelle. Les signes du langage sont des instruments redoutables par leur complaisance. On peut faire d'eux l'abus qu'on veut en faire. Ils ne réclament pas. Ils se laissent déshonorer et l'altération des paroles ne se révèle que par le trouble intime qu'elle produit dans les choses. Mais par cela même que la charité est la chose sublime, la réalité, par excellence, est la moelle des os de la créature. Par cela même, l'abus de la charité et le mauvais usage de son nom doit être spécialement et singulièrement dangereux. Optimi corruptio pessima. La corruption des meilleurs est la pire. C'est un adage. Mais c'est une réalité également. Ce n'est pas qu'une phrase. Plus ce nom est beau, plus il est terrible. Et s'il se tourne contre la vérité, armé de la puissance qu'il a reçue pour la vie, quel service ne rendra-t-il pas à la mort ? Or, on tourne le nom de charité contre la lumière, toutes les fois que, au lieu d'écraser l'erreur, on pactise avec elle, sous prétexte de ménager les hommes. On tourne le nom de la charité contre la lumière, toutes les fois qu'on se sert de lui pour faiblir dans l'exécration du mal. Il y a un mot dans le roi David, dans un psaume auquel on ne fait pas attention. Le voici. Qui diligitis dominum audite malum. Vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal. Le jour où le mal est entré dans le monde, il est né quelque chose d'irréconciliable. La charité, l'amour envers Dieu exige, suppose, implique, ordonne la haine envers l'ennemi de Dieu. Celui-là est le plus intime avec Dieu, qui a le frisson le plus solennel en face de la majesté. C'est pourquoi le péché contre le nom sacré couronne d'horreur le front des saints. Celui qui a senti passer sur lui l'haleine de la gloire devient irréconciliable avec le crime contre la gloire. La charité le presse. C'est pourquoi il est intraitable, car elle l'oblige, comme une noblesse supérieure, à ne pas consentir aux choses de la haine. Celui qui transige avec l'erreur, celui-là ne connaît pas l'amour dans sa plénitude et dans sa force souveraine. Comme c'est bien dit, et comme c'est vrai. Ernest Hello continue. Après une longue guerre, quand on n'en peut plus, quand la fatigue amène la ressemblance de l'apaisement, comme c'est actuel, il parle du 19e siècle, on peut faire beaucoup d'applications de nos temps. Je reprends cette phrase. Après une longue guerre, quand on n'en peut plus, quand la fatigue amène la ressemblance de l'apaisement, on a vu souvent les rois lasser de combattre, se céder les uns aux autres telle ou telle place forte. Ce sont là des concessions qui fournissent des moyens d'en finir avec le canon. Mais on ne traite pas les vérités comme on traite les places fortes. Quand il s'agit de faire la paix, en esprit et en vérité, c'est la conversion qu'il faut et de l'accommodement. La justice est tout entière ce qu'elle est. Petite parenthèse. Lorsque l'abbé Pagliarani a fait ses déclarations de foi il y a quelques jours, le 14 mai, le 7 février à Châteauroux, à la Martinerie, en disant pour les sacres à venir, on ne demande pas, car c'est utopique, la conversion de Léon XIV, mais qu'ils comprennent au moins l'importance des sacres. Ça correspond très bien à ce que dénonce Ernest Hello. Quand il s'agit de faire la paix, en esprit et en vérité, c'est la conversion qu'il faut et non l'accommodement. La justice est tout entière ce qu'elle est. La paix apparente, une complaisance achète et paix, est aussi contraire à la charité qu'à la justice, car elle creuse un abîme là où il y avait un fossé. La charité veut toujours la lumière. La lumière évite jusqu'à l'ombre d'un compromis. Parole très importante. La charité veut toujours la lumière, et la lumière évite jusqu'à l'ombre d'un compromis. Toute beauté est une plénitude. La paix est peut-être, au fond, la victoire sûre d'elle-même. Que dirait-on d'un médecin qui, par charité, ménagerait la maladie de son client? Imaginez ce tendre personnage. Il dirait au malade, « Après tout, mon ami, il faut être charitable. Le cancer qui vous ronge est peut-être de bonne foi. Voyons, soyez gentil. Faites avec lui une bonne petite amitié. Faut pas être intraitable. Faites la part de son caractère. Dans ce cancer, il y a peut-être une bête. Elle se nourrit de votre chair et de votre sang. Auriez-vous le courage de lui refuser ce qu'il lui faut? La pauvre bête mourrait de faim. D'ailleurs, je suis porté à croire que le cancer est de bonne foi et je remplis auprès de vous une mission de charité. C'est le crime du 19e siècle. On peut rajouter un siècle et demi maintenant. Que de ne pas haïr le mal, de lui faire des propositions. Il n'y a qu'une proposition à lui faire, c'est de disparaître. Tout arrangement conclu avec lui ressemble non pas même à son triomphe partiel, mais à son triomphe complet, car le mal ne demande pas toujours à chasser le bien. Il demande la permission de cohabiter avec lui. L'œcuménisme. Comme disait bien Mgr Williamson, la fraternité dans le zoo des religions, un petit peu ancienne, animaux préhistoriques, des dinosaures. Bon, ici, il y a Dinoscopus. L'évêque dinosaure. Mais voilà, la foire des religions. Le mal ne demande pas toujours à chasser le bien. Il demande la permission de cohabiter avec lui. Un instinct secret l'avertit qu'en demandant quelque chose, il demande tout. Dès qu'on ne le hait plus, il se sent adoré. La paix est la victoire sur d'elle-même. La paix est un écrasement. C'est un écrasement assez complet pour ne faire plus d'efforts. La paix ressemble au sommeil. Elle est le recueillement du vainqueur qui, ayant fait son œuvre et atteint son but au dehors, demande aux sources de la vie la régénération intérieure et la victoire intime après la victoire éclatante. Mais, la conclusion. Mais pour qu'il en soit ainsi, pour que la paix soit la paix, il faut que la justice ait été assouvie. Il faut un dégagement de lumière et de chaleur qui ait fait mourir l'ennemi, car l'ennemi, c'est le froid. Il faut que l'élément mauvais soit arraché, non pas voilé. Il faut qu'aucune rougeur ne menace les fronts de ceux qui vont s'embrasser. L'absolu est la chasteté de la victoire. Fin de citation de Ernest Hello. Ceci est dans le livre L'Homme qu'il a écrit. L'Homme, un livre admirable. Il faut que vous l'ayez, mes bien-chers frères, ce livre. Il faut le lire, l'annoter, apprendre par cœur, méditer ses paroles et en vivre surtout. C'est pas seulement intellectuel, mais que ce soit une vie. C'est du vrai Saint Paul, avec des mots plus modernes, mais c'est du vrai Saint Paul. Elle est imprégnée de la fougue de Saint Paul, de ce glaive, un glaive à deux tranchants, un glaive, s'il est émoussé, ça ne sert à rien. Et la charité est un glaive. La charité tranche avec le mal. Aujourd'hui, on fait d'une charité quelque chose de flasque, de béni oui, qui ne sert plus à rien. Ce n'est plus la charité, c'est autre chose. Le nom est le même, la réalité est changée. Le Saint-Esprit donne la charité, la vraie charité, qui tranche avec le mal, avec le péché, avec l'erreur, avec les ténèbres, avec Satan. Et on le voit bien, à partir de la Pentecôte, les apôtres ont été complètement transfigurés, pas extérieurement, mais intérieurement, transformés par le Saint-Esprit qui les a entièrement changés. Ce sont eux qui parlent, ce sont leurs mots, mais c'est les mots du Saint-Esprit. C'est leur bouche qui parle, leur langue, mais c'est le Saint-Esprit qui parle par eux. Ce sont des lions qu'on enferme, ils ressortent vivants. Saint Paul, lapidé, qu'on laisse pour mort, il se relève. Cabossé sans doute, mais alerte. Saint Jean subira le martyre devant la porte latine, ébouillanté, il en ressort rajeuni. Le martyre, les apôtres n'ont pas craint le martyre. Ils ont témoigné, c'est cela, martyr, en grec. Le martyr, c'est un témoin de l'Évangile, un témoin de Jésus-Christ. Pas un témoin lui-même. On ne se témoigne pas soi-même pour soi-même. Sinon, c'est de l'égoïsme, c'est de l'orgueil. Non, il faut beaucoup d'humilité. On ne prêche pas soi-même, on prêche notre Seigneur Jésus-Christ. Les prophètes furent méprisés, lapidés, sciés en deux, pour avoir prêché qui? Quoi? Le règne de Dieu dans les âmes. Ils ont combattu les erreurs, les péchés, les fauteurs d'erreurs et de vices. Les apôtres ont fait comme les martyrs d'avant Jésus-Christ, les prophètes. Ils ont témoigné de la foi reçue. Bien, chers frères, nous aussi, nous avons reçu, nous allons recevoir le Saint-Esprit dans la confirmation. C'est un sacrement qui transforme une âme. L'âme devient d'enfant adulte. Et le père Garrigou Lagrange est très sérieux sur ce fait. Il dit ceci: un baptisé qui refuserait d'être confirmé est un inspirituel. Il fait un péché. En disant: Oh, c'est suffisant, je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir un autre sacrement. Il ferait un péché, car il serait un inspirituel. Si, humainement parlant, par la nature. Quelqu'un est un nain, ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas grandi, ce n'est pas de sa faute. Il n'y peut rien. Mais spirituellement, si quelqu'un refuse d'être confirmé, il demeure nain spirituel, il fait un péché contre le Saint-Esprit. Car il refuse, il veut rester enfant. Et on n'a pas le droit. Il faut être adulte, combatif, armé des dons du Saint-Esprit, avec la plénitude des dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fait aimer la vérité, notre Seigneur Jésus-Christ, et partant haïr l'erreur et fuir le péché. Eh bien, chers frères, que Notre-Dame, la Vierge Immaculée, présente à la Pentecôte, elle était présente avec les apôtres dans le Cénacle, entre l'Ascension et la Pentecôte. Notre-Dame n'avait pas besoin de recevoir le Saint-Esprit. Elle l'a déjà reçu. À sa conception, elle est immaculée. Mais elle a aidé les apôtres à recevoir le Saint-Esprit en les préparant par la prière, par l'union à Dieu. Alors Notre-Dame fera de même avec nous. Elle nous prépare toujours à recevoir le Saint-Esprit et, si on l'a déjà reçu, à vivre selon l'Esprit Saint. Afin que nous soyons des ferments actifs de la véritable charité pour notre propre salut et celui des âmes, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.